L'écho des gnous, votre guide dans le monde libre. Sur Radio Campus 106.6, le libre n'est pas une jungle. Le libre n'est pas une jungle contre le logiciel privateur. L'écho des gnous.
Bonjour et bienvenue dans le 239e numéro de l'écho des gnous, l'émission qui vous explique l'informatique libre. Et bienvenue dans cette 13e saison de l'écho des gnous qui a commencé en octobre 2010. Ça ne nous rajeunit pas. En tout cas, on est encore une fois très heureux de vous retrouver. Pour une fois, on vous retrouve pas en octobre, mais au mois de septembre. Mais l'émission est en différé car je prends mes congés en septembre. Et donc, les deux premières émissions de la saison seront faites donc, en différé et enregistrées quelques jours auparavant. Bonjour Pierre.
Bonjour.
Et bonne rentrée à toi également.
Ben, merci à toi aussi.
Et les nouvelles des vacances n'ont pas forcément été très réjouissantes. Et la première d'entre elles, c'est que le Conseil constitutionnel a validé le principe du retrait en une heure des contenus sur Internet considérés comme terroristes. Alors, dit comme ça, ça peut paraître une mesure de bon sens, même s'il faut toujours se méfier du bon sens. Sauf que le problème, c'est que cette suppression, elle n'est pas décidée par un juge indépendant, mais par une administration dépendante du ministère de l'Intérieur, qui est l'Office central de lutte contre la criminalité liée aux technologies de l'information et de la communication, l'OCLCTIC. Une première version du texte avait été déjà refusée par le Conseil constitutionnel, avait été censurée, c'était la loi Avia qui avait été adoptée en 2020. Cette fois-ci, c'est la transposition d'un règlement européen du 29 avril 2021, entré en vigueur le 7 juin 2022, qui a été considéré comme conforme à la Constitution par le Conseil constitutionnel. Donc, qu'est-ce qu'il dit ? C'est que sur injonction de cet organisme, avec pour information une personne de l'ARCOM qui est chargée donc de recevoir les injonctions, d'être en copie des injonctions et également de transmettre aux homologues étrangers, puisque c'est un texte européen, toute demande. Et à partir du moment où elle a été décidée comme validée, même si du coup cette personne de l'ARCOM, donc qui est issue de la fusion de la SSA et de la DOPI, pourra auprès du juge administratif intenter un recours. Ce qui va faire un procès d'intention, mais j'ai quand même peine à croire que ça arrive souvent. Donc la problématique, c'est qu'on laisse au ministère de l'Intérieur, donc à l'administration, un pouvoir de censure et en plus surtout un pouvoir sans recours. Donc il suffit juste que ça ait été considéré comme pouvant être de nature terroriste sans autres explications, et juste simplement il y aura une notification qui sera faite comme pour expliquer donc sur le site que le contenu a été supprimé, pour quelles raisons ça a été supprimé. Donc ça se réjouit du côté du censeur en chef, Jean-Marie Cavada, qui lui veut aussi appliquer ça pour les contenus supposément en infraction avec les lois sur le droit d'auteur. On va en profiter aussi un petit peu. Donc c'est une nouvelle assez dangereuse, puisque on peut considérer que si on commence par le terrorisme ensuite, alors déjà il y a un risque d'interprétation un petit peu large, comme il a pu arriver au Royaume-Uni, et ça encourage également la censure automatisée de la part des plateformes, qui vont éviter donc d'avoir des ce genre de notifications. Et donc le risque, c'est que ça soit étendu à d'autres
À d'autres contenus comme la pornographie.
Bon, on dire que bon, là, on peut reprocher beaucoup de choses à ce gouvernement, mais il n'en est pas là. Je rappelle qu'un parti fasciste a réalisé 42% aux dernières élections et au présidentiel et a envoyé 90 députés. Jamais ce qui peut arriver dans 5 ans. Une autre mauvaise nouvelle, ou disons, est-ce une mauvaise nouvelle ou plutôt une confirmation de ce qu'on pensait, c'est que les fameux clubs de confiance, vous savez, où on prend des logiciels de grandes entreprises américaines en les faisant héberger par des acteurs français, donc qui étaient censément respectueux du droit français et donc pas soumis au droit américain, donc qui devait garantir la souveraineté des données. Et bien, selon une analyse demandée par le ministère de la Justice et de la Sécurité des Pays-Bas, qui a fourni une étude à un cabinet d'avocats, ce cabinet a conclu, et en accord d'ailleurs avec d'autres experts du droit sur le sujet, que on peut être soumis à la loi. Au Cloud Act, donc la loi américaine, donc qui permet aux Américains de s'immiscer dans le contenu qui est hébergé. Alors, on me dirait, vous n'êtes pas obligé en tant qu'entreprise française ou en tant qu'entreprise européenne d'obéir à la justice américaine, vous dépendez de la justice de votre pays, sauf que les grands groupes européens qui sont concernés ont aussi des activités aux États-Unis. Hein. On sait que c'est arrivé typiquement à une grande banque française qui a fait l'objet d'un chantage au droit américain. Donc, la justice américaine a fait pression à une grande banque française, hein, donc c'est pas un cas d'école, pour obéir à la loi américaine alors que c'était pour des activités faites sur le sol français. Autre sujet,
Pierre. Ouais, parce que là, c'est des plus loin, cela.
Le laisser-pisser numérique, Pierre.
Oui, commençons l'année avec un jeu de mots de qualité. C'est aux États-Unis, hein, forcément. Hein, donc, le numérique à tout prix sur certains aspects. Et donc, il y a un e-pass, donc un laisser-passer électronique pour. De sortir de la classe, donc c'est comme ce que tous les enfants font, hein, c'est tu sors de ta classe parce que tu dois aller aux toilettes.
Et ben, désormais. Là, typiquement, enfin, je sais pas, moi j'étais peut-être élevé à la dure, mais tu sortais pas de classe, alors sauf si vraiment c'était urgent. Alors...
Oui, tu dis que tu dois aller aux toilettes.
Hein. Ici en France, là, c'était.
Oui, et donc là, pour sortir, et ben, tu as un pass qui va notamment noter le temps que tu as passé. En dehors de la classe. Et donc, tu as un beau flicage comme ça. Et c'est la façon dont
c'est présenté. Traçage dès ton plus jeune âge.
C'est ça. Et c'est la façon dont c'est présenté, ça me choque encore plus. Donc, je cite, c'est le laisser-passer numérique du futur sans contact, basé sur le cloud, qui comprend des outils de distanciation sociale et possède des fonctionnalités qui aident à limiter les méfaits, les rencontres, le vapotage, le vandalisme et bien plus encore. Et l'entreprise précise même pouvoir empêcher les étudiants de se rencontrer, peu importe d'où ils viennent. Parce c'est que sympa. Oui, grâce au Covid, maintenant, on peut vendre officiellement des solutions pour que les gens ne puissent pas se croiser. Alors, je ne sais pas comment c'est censé marcher. Est-ce que ça va te faire un bip pour dire « Attention, tu es en train de t'approcher de quelqu'un. » Ou est-ce que tu vas te prendre un blâme ? Je ne sais pas. Mais c'est...
Alors, je suppose que c'est
extraordinaire.
Ce genre de choses.
Pardon ?
Typiquement, deux étudiants qui vont en même temps aux toilettes, ça peut être pour lutter contre la triche, un examen. Je suppose, hein. Je suis pas allé vérifier.
Alors non, ils vendent ça.
Cette entreprise, comme cas d'emploi.
Ils vendent ça aussi. Oui, mais ils vendent ça aussi avec le cadre, le contexte sanitaire sur le fait de pas laisser les gens se rencontrer. Forcément, ça aide. Bref, belle innovation. On approuve, on aime, on vous en parle. On continue avec d'autres innovations fort sympathiques.
On va essayer. Donc, oui, qu'est-ce que tu voulais évoquer, Pierre ? Quel sujet ?
Eh ben, on va parler de l'intelligence artificielle et de la lutte contre la pédophilie, puisque apparemment ça marche trop bien et qu'il faut en mettre partout.
Une principale excuse pour faire passer tout et n'importe quoi en matière de liberté numérique. Liberté publique, d'ailleurs.
Exactement. Et donc, bah, on a un joli cas aux États-Unis. Hein, donc, attention, hein, on parle d'une technologie qui a été mise en place par Google. Saint Google, priez pour nous. Google ne peut pas faire d'erreur, évidemment. Et si Google y arrive, tout le monde doit bien y arriver. Et donc, Google, eh ben, tout puissant qu'ils sont, ils ont un outil automatisé pour détecter les images abusives d'enfants. C'est génial, voilà, c'est Google chasse les images pédopornographiques partout. Et donc, la mésaventure, c'est arrivé, alors on a deux témoignages, on a deux pères de famille américains qui ont signalé le problème. Donc, ben, l'un des papas, donc, son fils, a eu un problème d'irritation au niveau du pénis. Donc, ben, pour une téléconsultation, il a décidé de prendre une photo du problème en question pour l'envoyer au médecin. On était en plus en période de Covid, donc téléconsultation, oui, etc. Et donc, avec les photos, donc, le médecin a pu faire la prescription, tout ce qu'il fallait. Sauf que le téléphone utilisé était un téléphone Android. Les photos étaient stockées chez Google. Deux jours plus tard, le téléphone a indiqué une alerte comme quoi le compte était désactivé en raison d'un contenu préjudiciable qui constituait une violation grave des règles de Google et pouvait être illégal. Donc, l'ingénieur s'est dit, oh mon Dieu, enfin, le père est ingénieur, il s'est dit, oh merde, c'est les photos qui ont dû être considérées comme ça. Sauf que c'était déjà trop tard. La police avait déjà été contactée, il avait déjà été dénoncé auprès de la police de San Francisco, donc la police a dit ah, « c'est bon, vous n'êtes pas coupable, c'est bon, il n'y a aucun problème ». Ça a été signalé, donc il a été dénoncé en quelques jours, mais par contre, il n'a pas pu récupérer l'accès à son compte. C'est terminé, hey, il n'y a pas d'appel possible.
Quand vous confiez vos données à Google, vous laissez à Google la maîtrise des données et vous êtes vulnérable à... une injustice causée par Google et une accusation à tort.
C'est ça. Et puis, ben, du coup, pour récupérer les données, c'est impossible. Il n'a plus rien. Donc, nous, quand on nous dit oui, il faut lutter à tout prix contre la pédopornographie, c'est horrible, donc on va mettre du filtrage automatique, et ben, on voit où est-ce que ça peut aller au mur. Une dernière pour la route.
La dernière pour la route, oui, c'est une association donc de protection de l'enfance qui demande ni plus ni moins d'interdire Twitter à cause de la pornographie. Bon, ça a peu de chances d'arriver puisque Twitter est quand même très utilisé dans le débat public en France. Alors, je voudrais quand même dire effectivement, en tant qu'utilisateur de Twitter, vous voyez, on a un compte Twitter, les codes GNU, c'est moi qui le tiens. C'est-à-dire qu'on communique beaucoup dessus, mais vous avez des informations essentielles. C'est vrai que Twitter est très tolérant envers la pornographie, à tel point que si vous avez juste désactivé le filtre, on va dire, anti-contenu choquant, des fois vous faites des recherches complètement banales et vous tombez sur effectivement du contenu à caractère pornographique. Vous mettez un nom de ville. Je vous assure, vous comptez. Non, mais vous faites des recherches les plus innocentes. Et non, mais c'est une pollution assez énervante. Et je ne vais pas remettre le fil parce que j'ai pas envie de que ce soit sans, entre guillemets, subir quelconque censure. Et je veux voir tous les. Je ne veux pas passer à côté éventuellement d'un message parce que Twitter l'aura considéré comme choquant. Sauf que je trouve que c'est une pollution assez. C'est pas très safe for work.
Non,
encore, mais... professionnel.
On retombe sur le problème comment classer automatiquement le contenu pour repérer le contenu pornographique, et derrière on tombe aussi sur comment filtrer derrière et comment contrôler l'âge des utilisateurs. On n'en parlera pas dans cette émission parce que ça date d'aujourd'hui, j'ai pas eu le temps de digérer toutes les actualités sur ça. Il y a eu un ensemble d'actualités sur le blocage des sites pornographiques en France. On en reparlera dans la prochaine émission, je pense. Mais gros problème, comment on fait pour bloquer?
On parlera sécurité après un premier morceau de musique. Nous allons écouter Lockdown Summertime, Talking Cure. Vous écoutez les codes GNU sur Radio Campus en 6,6, campuslille.com et la radio numérique terrestre. C'était Lockdown Summertime, Talking Cure. Vous écoutez les codes nous sur Radio Campus 106,6, la radio numérique terrestre et campuslille.com. C'est la deuxième partie des actualités. Et on va parler d'actualité sur la sécurité avec une petite tentative de phishing que j'ai vue donc sur le site nommé précédemment, donc le réseau social avec le petit oiseau bleu, qui était relayé d'ailleurs par l'article de Next Impact. C'est une tentative assez originale de phishing et c'est du phishing hybride à la fois numérique mais également avec une composante physique et c'est là que c'est quand même beaucoup plus traître. Alors, vous savez, on commence à... Bon, surtout si vous avez une association avec un ou une entreprise avec un Siret, vous recevez du spam par courrier. Ça se fait assez souvent. Mais ça reste du spam, ça reste des vendeurs qui veulent... sollicité pour des services dont on n'avait pas besoin. Là, ici, c'est un faux avis de passage. Bon, une analyse montre qu'il y a effectivement des incohérences, mais bon, c'est vrai que quand vous recevez un courrier recommandé, vous n'allez pas vous commencer à vous poser 40 000 questions sur le format de votre avis recommandé. Bon, il y Il y a quand même un truc qui choque, c'est que on vous dit pas paniquer à quelle adresse et on vous dit pas quand est-ce que le facteur est forcément passé. Si il vous le dit, c'est qu'il vous dit que c'est pas, il est passé assez tard dans l'après-midi. Enfin, bref, il y a plusieurs indices qui montrent que pas forcément très crédible, mais ça utilise du coup une faille de sécurité du site de la poste. Je ne sais pas si tu en as entendu parler, Pierre. C'est qu'il y avait une commande switch site. Switch site,
oui,
qu'est-ce
que tu veux ? Oui, je l'ai vu passer, ouais.
Et bah du coup, c'est ça où c'est traître, c'est que nous, c'est vrai que pour simplifier, on, en général, on dit aux gens, on va dire qu'ils ne sont pas forcément experts en informatique, pour vérifier bien le format du site internet. Là, typiquement, bah, la poste, ça s'appelle, si c'est laposte.fr, ça va. Si c'est quelque chose, .laposte.fr, ça va. Maintenant, si c'est laposte.fr, .monsite.com, là, c'est un type de phishing. Le problème, c'est que l'URL source, c'était bien la poste.fr. Ça a redirigé vers un autre nom de domaine qui contenait la poste. Ça commence à être un petit peu plus tordu. Bon, là où, en général, quelqu'un a un petit peu, à dire, au fait des problématiques de phishing, va trouver bizarre que pour payer un recommandé, pour recevoir un recommandé, pour avoir une relivraison de votre recommandé, vous deviez payer. Et qu'on vous demande vos coordonnées bancaires, on vous demande votre numéro de carte bancaire. Donc c'est assez.
C'est grossier, mais ça.
C'est assez grossier, mais
ça marche.
Le problème, c'est que des fois, c'est qu'il y a certaines augmentations de la qualité du phishing qui, moi, me fait assez peur. Alors, et à quoi sert, pourquoi la poste.fr avait une redirection de site et un des commentaires que j'ai vu a. Cité comme raison possible, tout simplement à des fins statistiques pour donc savoir combien de redirections sont faites et à des fins de publicité. Donc, si c'est ça, c'est grave, c'est je dirais encore un effet pervers de la publicité en ligne. On voit que on peut éventuellement, voilà, c'est que.
Il y a beaucoup de raisons pour ce genre de fonctionnalité.
Il y a beaucoup de raisons.
Oui, mais si tu regardes par exemple chez Microsoft, c'est quelque chose qui.
Bon exemple déjà.
Quoi ?
Bon exemple déjà.
Chez Microsoft, par exemple, ils ont un annuaire de liens qui est utilisé. En fait, ils donnent très rarement des liens directs vers des ressources. C'est très, 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 très souvent des liens indirects. Et donc, tu vas sur un site de Microsoft qui te redirige sur un autre. Alors, l'URL n'est pas en clair puisque c'est juste un lien raccourci. Mais ils ont peut-être pu vouloir faire cette fonctionnalité-là sans validation. Le défaut, c'est l'absence de validation de la validité du lien. Quelqu'un n'a pas pensé à ça. Mais la fonctionnalité en tant que telle est utile. Il y a aussi, imaginons la poste veut mettre en place. La poste peut avoir des volontés de mettre en place certains changements sur leur site où ils vont vouloir utiliser des systèmes de bascule comme ça. Il y a plein de raisons techniques, c'est con qu'il n'y ait pas eu de sécurité.
Ça peut faire de ton côté.
L'oubli de sécurité me
choque. Oui, le trop de sécurité était béant, surtout pour un site institutionnel comme celui-là.
Voilà, c'est ça, c'est un gros manque que ça n'avait pas été vu. Mais la fonctionnalité en tant que telle, elle peut être nécessaire. Les redirections comme ça, il y en a plein qui ont lieu. Et en fait, avec de plus en plus de sites qui sont HTTPS, l'un des problèmes, c'est que justement, rediriger vers un site. Dans certains formulaires, dans certaines opérations JavaScript, les redirections vont être bloquées si c'est vers des sites externes qui, eux, ne sont pas HTTPS. Et donc, la façon de faire comme ça peut aussi aider à éviter le problème. Donc, il y a des tas de détails. Alors, il y en a une bonne partie, ça va être de l'historique, mais il y a des tas de raisons pour faire ce genre de choses.
On passe de la faille de sécurité sur le web à la faille de sécurité sur le matériel, Pierre, et une nouvelle faille sur un processeur.
Oui, donc c'est la Wazillionième, je sais même plus à combien on en est, à force, au niveau des processeurs. Alors là, c'est Intel et AMD qui sont concernés, mais je voudrais en parler un petit peu parce que ça commence à m'agacer sérieusement, toutes ces annonces. Je voudrais juste refaire un petit point sur... Donc d'abord, on va reparler juste de la première faille, on avait fait une émission spéciale sur ça parce que... C'était vraiment une énorme annonce, celle-là. La première faille de sécurité, Meltdown, ne concernait que les processeurs Intel, et elle, pour le coup, c'était une vraie grosse faille bien méchante qui mettait en question des fondements de la sécurité du système d'exploitation. C'était vraiment... Il fallait que cette faille-là soit corrigée. Donc, il y a une correction qui a été mise en place. Elle en vaut la peine. Par contre, là, sur la faille Red Bleed, par exemple, on commence à être sur des failles qui sont extrêmement difficiles à exploiter et où les corrections ont un impact en performance majeur. Là, pour l'instant, sur Red Bleed, on est sur une perte de 14 à 40% en performance sur certains tests.
Donc, ce qui t'énerve, Pierre, en réalité, c'est pas qu'on trouve des nouvelles failles, il faut dire, oh là là, de moins en moins rigoureux sur la sécurité, mais c'est qu'on détecte des failles, c'est qu'on cherche des failles qui en final peu de chance en fait d'exploiter dans un contexte opérationnel.
Merci de m'offrir ma transition parce que je savais pas comment j'allais à la suite. On voit à quel point les émissions sont préparées. Donc en fait, ces failles sont parfaitement exploitables dans un contexte opérationnel particulier qui s'appelle en particulier, hein, vraiment, le cloud.
D'accord.
Ces failles-là sont intéressantes dans ce cadre. Mais par contre, pour les ordinateurs personnels, non, ça n'a pas d'intérêt. La Red Bleed n'a que très peu d'intérêt par rapport à ce que nous, on peut avoir. En fait, il faut déjà que quelqu'un ait pris... Pour exploiter Red Bleed, il faut que quelqu'un ait déjà la possibilité d'exécuter n'importe quel code sur votre machine pour ensuite pouvoir exécuter encore plus de code avec un niveau de droit supérieur. La probabilité que ce soit exploité sur nos machines ne vaut pas la perte en performance. Par contre, pour un hébergeur cloud, pour certains serveurs, je peux comprendre. Mais du coup, ça fait que ces failles-là, par défaut, le comportement, ça va être on active la sécurité. On active une perte de performance de 15, 20, 30% sur certains cas.
Donc pour un usage, je veux dire, domestique ou un usage d'entreprise en station de travail, il n'y a pas d'intérêt.
Je ne vois pas l'intérêt, en tout cas. Et j'en ai discuté avec certains de mes collègues. Quand on a vu la faille sortir, on a dit non, on ne l'activera pas sur nos serveurs parce que ça va nous coûter beaucoup trop cher. Et on considère si la faille est exploitable, c'est qu'on a déjà perdu et c'est déjà trop tard. On pourra déjà mettre la clé sous la porte si la faille est exploitable. Au final, on active ça, c'est activé par défaut avec un impact majeur, et on parle beaucoup de sobriété énergétique, tout ça en ce moment. Là, c'est une perte d'énergie monstrueuse, et c'est pas grave.
Pierre, tu voulais parler de l'anti-malware de macOS qui scanne de plus en plus de fichiers.
C'est plutôt le macOS qui se met de plus en plus à scanner, et en fait, je voudrais juste pointer un petit élément là-dessus, c'est pendant des années, les publicités d'Apple, c'était sur le mode, notamment à l'époque, ils avaient personnifié PC et Mac par des humains, et ils vantaient le fait que sur Mac, il n'y a pas besoin d'antivirus, il n'y a rien besoin, tout est beau, tout est merveilleux, et en fait... aujourd'hui, Apple a un scan tellement régulier, a des outils de protection contre tout un ensemble de failles effectivement, maintenant il y a en fait l'équivalent d'un antivirus intégré dans macOS. Mais ils l'ont fait sans jamais le dire réellement parce que sinon ça nuirait trop à leur communication. C'est ce point-là qui m'amuse beaucoup.
Alors qu'ils pourraient très bien en faire un argument de vente. Regardez, le système est tellement protégé. On scanne régulièrement à la recherche de malware, ceinture bretelle. Bon, ça peut se vendre, mais c'est vrai que la légende dit qu'il n'y a plus besoin d'antivirus sur Mac. Du coup, ferait long feu.
Ah oui, c'est juste pour ça. Puisqu'ils ne veulent pas que ça soit dit, autant le dire.
On revient en France avec la carte vitale biométrique et avec un gouvernement qui a besoin de chercher des majorités à droite, à gauche.
Surtout à droite.
Forcément, un gouvernement de droite va aller chercher des voix de droite. Donc, va claquer 20 millions d'euros pour une carte vitale biométrique, puisque un des arguments en massue, une marotte. Hein, c'est le... Oui, mais vous savez, les millions d'immigrés, n'est-ce pas, profitent de fausses cartes vitales pour siphonner l'argent de la sécurité sociale. Bref, les fantasmes de fachos. Donc, et pour ça, plutôt que d'investir dans des technologies qui pourraient réellement, typiquement, la carte d'identité avec une clé RSA, que
font les Belges. C'est le cas maintenant. La carte d'identité, ça c'est bon maintenant.
Elle est vraiment utilisable ? Oui, enfin.
Bah, je ne l'ai pas encore. Je change de carte d'identité prochainement. Je pourrais en parler de l'année prochaine.
En parler parce que, justement, moi, ce que j'ai souvenir, c'est qu'ils n'avaient pas utilisé la solution belge qui permettait facilement de pouvoir s'authentifier de manière respectueuse de la vie privée.
On verra. J'ai pas assez creusé la carte d'identité électronique. C'est vrai que. Avoir. En tout cas, là, pour la carte vitale biométrique, moi, je voudrais juste insister sur un point sur tout ça. Alors, bon, déjà, donc la droite, donc Retailleau notamment, qui affirme, oui, il y a plus de 7 millions de cartes vitales en circulation, de plus qu'il y a de Français. Ce chiffre est complètement faux. Hein, donc, la Cour des comptes évoquait plutôt 1,8 à 2 millions de cartes vitales surnuméraires, et les doublons seraient plus liés à des cartes perdues puis retrouvées qu'à des vraies fraudes. Parce que, tout simplement, frauder une carte à puce, c'est tellement compliqué que, à mon sens, le mec qui perd son temps à frauder une carte à puce, c'est un à frauder une carte vitale, c'est un abruti parce que il gagnerait beaucoup plus d'argent à le faire sur une carte bancaire. C'est le même fonctionnement. La sécurité des cartes à puce aujourd'hui n'est pas remise en cause. Donc là, ce qui est en fait la marotte du coup qui est utilisée, c'est dire oui, c'est des cartes vitales qui ont été volées et qui sont dupliquées. Sauf que il existe dans tous les bons systèmes comme ça, et j'espère pour le coup que ça existe aussi au niveau de la carte vitale, il existe des systèmes de révocation de cartes, donc en cas de perte, une carte normalement devrait pouvoir être révoquée. Et il n'y a même pas 7 millions de cartes volées, il y en a un nombre extrêmement faible. Donc tout ça, c'est du vent, c'est des mesures.
Voudrait dire que du coup, quand vous allez chez votre médecin et vérifiez vos empreintes digitales avant de mettre votre carte vitale.
Voilà, c'est déjà pour ça qu'on nous avait fait mettre une photo sur la carte vitale.
Bon, encore la photo, ça se vérifie facilement, mais là, voilà. Il faut prendre. Déjà, ça voudrait dire que pour créer une carte vitale, il va falloir. Parce que je pense pas que la Sécu ait nos empreintes digitales.
Non.
Je m'y prends, hein. Donc, il faudra déjà, je ne sais pas comment, comme pour une carte d'identité ou un passeport, aller à la caisse primaire d'assurance maladie, se faire prendre les empreintes digitales. Enfin, j'ai du mal
non,
déjà.
Non, mais ça va être n'importe quoi. Là, en plus, les 20 millions d'euros qui ont été mis, c'est uniquement pour évaluer comment mettre en place. Parce que la mise en place réelle, ça coûtera plus proche de 1 milliard d'euros ou plus.
Tu disais que 20 millions d'euros, ça me paraissait pas cher.
Ah non, 20 millions, c'est pas cher. 20 millions, c'est juste. C'est là, ça, j'espère qu'en fait qu'on va gâcher que 20 millions d'euros là-dessus pour dire non mais c'est pas possible, ça va coûter une fortune, faut arrêter. Mais pour l'instant, c'est déjà 20 millions d'euros de cramer dans un truc dont tout le monde dit que ça sert à rien.
Merci Pierre, on se retrouve avec des nouvelles sur les logiciels libres. Ça se trouve, vous écoutez l'émission pour ça. Après un second morceau de musique, nous allons écouter How We Get Here, Explosive Air Candy. Vous écoutez l'écho des nous sur Radio Campus 106,6, la radio numérique terrestre et campuslille.com. We got here.
got here? Can we get out of this love? Can we get out of this love? Can we get out of this love? Can we get out?
C'était How We Got Here, Explosive Air Candy. Vous écoutez les Codes Ignous sur Radio Campus 106,6, la radio numérique terrestre et campusil.com. C'est la troisième et dernière partie des actualités. Pierre, on va parler logiciel libre et on va parler d'OpenOffice. Oui, bien d'OpenOffice, le projet zombie, mais qui bouge encore, la mort vivante.
Voilà, il a bougé pour la deuxième fois cette année, c'est assez invraisemblable, hein. Donc on en avait déjà parlé en mai parce qu'il y a une nouvelle version avec des directives de sécurité, et là en juillet, une nouvelle version sort pour Apache OpenOffice avec des correctifs de sécurité.
Voilà, c'est déjà mieux que rien.
Ouais, ça fait depuis 2014 qu'ils n'ont pas sorti de vraies nouvelles versions.
Pierre, ça occupe des gens. Plutôt que de continuer à LibreOffice, il y a des gens, ils veulent continuer à maintenir l'Office.
Mais il y a un vrai problème, c'est que la Apache Software Foundation a fêté à la fin du mois d'août, ils ont fêté les 333 millions de téléchargements d'Apache OpenOffice depuis 2011.
Le problème, c'est qu'OpenOffice, la marque reste plus connue que LibreOffice pour le moment.
Tout à fait, et sauf que c'est un vrai problème, puisque du coup, les gens pensent que l'alternative à Microsoft Office, c'est OpenOffice, et OpenOffice n'est plus maintenu. Donc effectivement, il manque plein de fonctionnalités, il y a plein de bugs. À un moment, il y a eu des failles de sécurité, et la correction qui a été signalée, ça a été de dire supprimer tel fichier dans l'installation du programme pour désactiver cette fonctionnalité-là. C'est plus possible. Il n'y a plus de développement de fonctionnalité, il y a à peine le suivi de sécurité. Ça ne doit pas être mis en avant. Donc il est plus que temps qu'Apache, la fondation Apache, abandonne et juste dise non, OpenOffice est terminé, allez chez LibreOffice. Ils auraient juste à mettre un message sur le site web, ça n'abandonnerait pas la marque. Ça serait constaté que oui, le développement est arrêté, allez chez LibreOffice.
Genode 22.08, ou la démonstration de l'intérêt d'un téléphone vraiment ouvert et libre, Pierre.
Oui, donc je vais en parler assez brièvement quand même, parce que c'est un sujet qui est très compliqué, qui nécessiterait beaucoup, beaucoup trop d'explications pour être mené dans une émission de radio. Mais donc, Genode, en fait, c'est des briques de Lego pour fabriquer un système d'exploitation. Grosso modo, c'est un kit pour que les gens, les bidouilleurs, puissent fabriquer un système. C'est on prend des morceaux à droite à gauche, on les assemble et pouf, on a un système. Et là où c'est très intéressant, je trouve, ce qu'ils ont mis en place, c'est ils se sont dit, tiens, on va faire un système utilisable sur le PinePhone, donc le téléphone portable quasiment entièrement libre, hein, à part des détails autour du modem, parce que ça, on n'a pas le choix. Et donc, ce système-là, ce que je trouve très intéressant, c'est que étant donné que c'est un système de bidouilleur, ils ont réfléchi à comment faire pour améliorer la sécurité, comment faire pour bien isoler notamment la partie vraiment téléphonique du système des applications. Parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas de vraie séparation, soit sur Android ou sur iOS. Et donc, tout ça, ils ont pu intégrer, dans les fondements du système d'exploitation sur le téléphone, parce que c'est un téléphone entièrement ouvert. Sur tous les téléphones Android du marché que je connaisse, ce genre de développement n'est pas possible. C'est pas possible. Techniquement, on ne peut pas faire ces développements-là. On n'a pas les spécifications, on n'a pas les éléments techniques, on ne peut pas. Donc, je trouve ça très intéressant. J'espère avoir l'occasion de l'essayer pour pouvoir en faire une déclinaison, ce système. J'avoue, c'est vraiment pas, en tout cas, aujourd'hui, c'est vraiment pas du tout fait pour l'utilisateur final. Mais ça pourrait être intéressant à voir, donc à suivre.
Si vous aimez les environnements de bureau un peu vintage, NSCDE, puisqu'il n'y a pas que KDE et GNOME dans la vie, Pierre, c'est vrai, CDE qui est un petit peu indirectement l'ancêtre de KDE, ou plutôt KDE est une. Le Common Desktop Environment qui était le. Bureau majeur sous.
Le seul lien de KDE et de, entre KDE et CDE, c'est le jeu de mots. Hein.
C'est le jeu
Attention,
de mots.
Attention, quand même. Alors, CDE, c'était. Et ça mérite le coup d'œil, je trouve, ce genre d'environnement pour avoir une idée de certains chemins qui ont été explorés, qui continuent de l'être, mais qui n'ont pas percé, on va dire, dans le choix de conception d'interface graphique. Alors, oui, NSCDE n'est pas très beau. En tout cas, il a une esthétique qui lui est propre. Mais. C'est intéressant de voir comment s'est fait ce genre de choses. Donc c'est pour ça que je choisis d'en parler. Hein. Je me doute que ça va pas faire migrer des tonnes de gens, mais ça permet de montrer une autre façon d'agencer l'interface utilisateur. Et c'est une solution c'est un système qui est beaucoup plus Unix dans sa réflexion, dans sa vision de l'interface utilisateur, que ne le sont les KDE ou GNOME d'aujourd'hui qui sont trop inspirés de ce qui se fait chez Windows, chez macOS. La vision Unix originelle, elle était dans CDE et elle n'a pas décollé. C'est pour ça que ça n'a pas été une source d'inspiration pour les autres.
Après, j'objecterai que Apple ou Microsoft ont payé des ergonomes, des gens quand même, on va dire à l'écoute de l'utilisateur, c'est pas des projets libres, faut pas déconner, mais qui au moins font des études sur le sujet, alors que bon,
je suis pas sûr. Alors que CDE a été financé par des Sun et autres,
qui mais financé également. Par Sun, mais est-ce qu'ils ont réellement
fait oui, des. Oui, c'était des environnements de travail, c'était des machines de travail.
Ouais, mais de travail, donc sur un pool utilisateur qui est quand même relativement réduit et pas orienté grand public comme peuvent l'être Windows ou macOS.
Ou KDE ou GNOME.
KDE ou
GNOME, on parle de voilà, libre quand même.
Ou KDE. Non, mais voilà, eux, la différence est quand même.
Après, mais j'ai pas dit que.
Et c'est aussi un des. Il ne faut pas se cacher, un des problèmes du logiciel libre, d'être très orienté développeur et de ne pas avoir les moyens qu'ont ces grandes entreprises pour faire des études par des ergonomes pour concevoir des systèmes, concevoir des interfaces graphiques.
Je n'ai jamais vendu CDE comme étant un système fait pour l'utilisateur lambda. C'est un système qui est inspiré du monde Unix, qui mérite le coup d'œil pour voir par curiosité intellectuelle, mais effectivement, l'utilisation au quotidien, c'est pas du tout la même chose, c'est une habitude à prendre qui est complètement différente. Donc, c'est juste pour de la curiosité scientifique que ça mérite vraiment d'exister et que c'est bien que ce genre de solution soit encore maintenant.
Une petite dernière pour la route, Pierre. On a un petit peu de temps. C'est comme tu veux. Est-ce que tu veux parler du gouvernement japonais qui pour éliminer les disquettes, ou une bonne nouvelle, c'est 50 pièces détachées qui vont être maintenant garanties par les constructeurs pour les intelliphones, comme tu décris, pour les smartphones.
T'as quasiment tout. On peut peut-être même faire les deux. Le Japon, ça va être en une seule phrase quasiment. Donc, nous sommes en 2022 et le gouvernement japonais a annoncé, déclaré la guerre aux disquettes qui sont encore utilisées dans des milliers de procédures gouvernementales et dans des échanges interministériels au Japon. Et ça commence à être un problème. Et c'est vrai que de plus en plus de gens aujourd'hui ne sauraient même pas décrire ce que c'est une disquette. Donc, il était peut-être temps, effectivement, qu'ils fassent ça. Et sinon, côté Union européenne, une excellente annonce. Alors, j'attends de voir un peu plus de détails. Je pense qu'on en parlera dans une prochaine émission. Les régulateurs européens veulent 5 ans de pièces détachées sur les téléphones portables après la fin de la commercialisation du téléphone par le fabricant. C'est-à-dire que si vous achetez un téléphone en début de vie, vous avez 6, 7 ans peut-être de pièces détachées garanties par la loi.
J'avais eu un retour d'utilisateur sur Chromasoft d'un Fairphone et qui était assez insatisfait de ce qu'offrait en réalité Fairphone. Donc, un des arguments principaux, c'était la réparabilité, qu'en réalité, ils sont plutôt dans une démarche où ils sortent un modèle par an et la réparabilité est plus théorique qu'autre chose. Il a fait un post de blog, à rigueur, je le mettrai sur Wiki si j'ai un petit peu. Enfin, si j'y pense, sur le temps, c'est que si j'y pense. Je propose qu'avant dégicalisation, la première de la saison, nous écoutions, on va y arriver, il est tard. Nous enregistrons cette émission entre 21 et 22 heures. Nous écoutions donc Fresh Body Shop and Cracked. Vous écoutez l'écho des gnous sur Radio Campus 106,6, la radio numérique terrestre, et campusil.com. 10,000 miles away from an impressive home. The kids are blowing faster than the speed of light. Some of them will never come back. Some of them will touch the sky. Spending their holidays on the aircraft plane. Not afraid of entering the twilight zone. Some will change. C'était Fresh Body Shop Unquieted. Vous écoutez l'écho des gnous sur Radio Campus 106,6, la radio numérique terrestre et campusil.com. C'est l'heure de la séquence que vous attendez toutes et tous. C'est pour la première de la saison. C'est l'heure de la dégicalisation. Pierre, sobriété, j'écris ton nom, et PXXXX d'inflationnite.
Mais oh, ça va, tu pourrais dire méditerranéen.
Il a fait 19 megs, une fois installé, il fait.
En plus, il spoil la suite. Non, ça, c'est mes notes.
Excuse-moi, Pierre, je te laisse continuer.
Donc, on parle beaucoup en ce moment de sobriété. On a eu des beaux discours de Manu Macron hein, sur ça. Et voilà, j'ai eu un merveilleux exemple avec. Une application Android et je pense que ça méritait largement d'en parler. Donc j'ai une fille qui va à la crèche et du coup à la crèche ils ont dit ah pour être en contact pour que vous nous laissiez des messages qu'on vous laisse des messages tout ça et ben on passe par on a une application iOS et Android. Donc bon moi ayant pas d'un téléphone Android, encore moins iOS, je me retrouve quelque peu coincé. J'ai deux options, soit je commence à regarder pour des émulateurs Android sous Linux, etc. Le truc un peu lourdingue. Je me dis, je vais quand même d'abord regarder un petit peu leur application, puis comme ça, si ça se trouve, ce sera l'occasion de faire un peu des assembleurs, c'est toujours rigolo. Donc, je télécharge l'application. Déjà, donc, le contexte, c'est vraiment c'est une application de, d'échange de données entre crèche et parents. Ça va pas plus loin. L'application à télécharger fait 19 mégaoctets. Ce que je trouve énorme par rapport aux besoins. Alors, j'ai regardé sur le téléphone Android de quelqu'un, l'application, une fois installée, pèse 38 mégaoctets. C'est assez énorme, toujours, pour une application qui ne fait que des échanges entre deux personnes, sachant qu'en plus, ça ne représente pas les documents échangés. C'est juste pour l'application. Donc, je me dis, ben, je vais regarder ce qu'il y a dedans, quand même, c'est bizarre, ça, un truc aussi lourd, ça, c'est un peu surprenant. Donc, je commence à fouiller les fichiers, puis avant même de commencer à regarder le code lui-même de l'application, je me rends compte qu'il y a un dossier qui prend un petit peu de place. Donc, le dossier des assets, ça s'appelle chez Android, c'est le dossier des données de l'application. Et là, dans ce dossier, je tombe sur un fichier index.html. Alexandre, ça te parle, index.html, je pense.
Ça serait la page d'accueil d'un site web.
Exactement. C'est
du choc. Expertise web. Expertise web, hein, c'est quelque chose, hein, qu'est-ce que je vous dis.
Et donc, ben, j'ouvre ce fichier index.html dans un navigateur web. Et voilà, l'application fonctionne. Je n'ai rien eu à faire. En fait,
c'est juste une web view en fait encapsulée.
C'est ça. Il y a 38 mégaoctets installés sur le téléphone pour au final quelque chose qui aurait pu être uniquement hébergé sur le site du fournisseur, puisque de toute façon ça ne marchera pas sans connexion internet derrière. Donc quelque chose qui aurait pu être sur le site du fournisseur et du coup ne pas nécessiter de téléchargement inutile sur le téléphone. Et si on creuse encore plus, l'application elle-même est utile, j'ai commencé à creuser parce que quand même c'est beaucoup, dis donc, d'avoir là sur les 38 mégas, c'était encore, je retrouve mes chiffres en vitesse, c'était une quantité assez importante uniquement pour les assets, je retrouve l'espace pris, voilà, c'était 28 mégaoctets pour l'application web. Je me dis, c'est beaucoup. Qu'est-ce qui prend autant de place? Donc, je suis allé creuser un peu dedans. Et donc, les développeurs de cette application sont des gens très gentils. Ils ont minimifié le JavaScript, notamment pour que le JavaScript prenne moins de place. C'est une méthode assez simple, ça, on supprime les espaces, etc. On renomme toutes les variables, les outils qui font ça tout seul. C'est très bien. Et à côté du fichier minimifié, il y a un fichier pour déminimifier. Ils ont mis les deux dans l'application. Du coup, là déjà, ça représente le tiers du poids de l'application, c'est ce truc-là. C'est des fichiers de debug. Un autre bon gros 30%. Même plus 40% de l'application, ce sont des polices de caractères. Polices de caractères, quand j'ai vu ça, je me suis dit, ah, quand même, c'est bizarre des polices de caractères qui prennent autant de place pour une application comme ça. Et bien en fait, c'est parce que chaque police de caractère est fournie dans 4 formats, dans 4 ou 5 formats différents. Comme ça.
Des formats de quoi, non?
C'est la police, elle est fournie au format TrueType, au format EET, au format web, je sais plus quoi, au format web, je sais plus quoi 2, et au format SVG. Je ne savais même pas que ça se faisait de fournir les polices au format SVG, je l'ai découvert. Et ça prend aussi une place énorme pour des données qui ne seront jamais utilisées. Donc au final, on se retrouve. Alors, le drame, c'est pas tant l'espace disque pris, c'est pas très grave, honnêtement. Enfin, en tant que soi, si on a 5 gigaoctets de stockage disponible, ça consomme autant d'énergie que ce soit rempli ou que ce soit vide. Ça, c'est pas ça qui pose problème. Ce qui pose problème, c'est que on parle d'espace prise par une application sur un Android. Et là, déjà, c'est plus rigolo puisque sur Android, on ne peut plus aussi facilement qu'avant, en tout cas, étendre l'espace disponible pour installer des applications. parce qu'avant on pouvait plus facilement mettre des applications sur les cartes SD. Si j'ai bien compris, maintenant c'est un peu plus compliqué.
C'est de plus en plus compliqué, oui.
Donc on est en train de prendre de l'espace. Sur...
toutes les données dessus, oui.
On prend de l'espace sur un emplacement qui est limité. Qui va même être facteur de remplacement de téléphone portable, puisque les gens vont dire ah, plus de place sur mon téléphone, je vais remplacer les bons téléphones.
C'est de l'obsolescence, on va dire programmée, mais provoquée.
Voilà, c'est on provoque de l'obsolescence. En plus, on interdit aux gens d'accéder à la fonctionnalité depuis autre chose qu'un téléphone Apple ou Google. Puisque par défaut, personne n'est au courant qu'il suffirait que ce soit mis sur un serveur web pour pouvoir y accéder sans problème. Et c'est en fait, tout déconne là-dedans. Il n'y a rien qui va.
On vous donne une appli, ça fait sérieux, ça permet de justifier du service. Allez, on paye pour une appli. Alors, en fait,
Mais le pire, c'est que dans l'navigateur web, ça marche tout aussi bien. Je n'ai aucun bug. Je reçois des notifications, je reçois les messages, je reçois les images, tout va bien. Alors certes, quand je le mets en plein écran sur mon PC, ça s'affiche très très mal, parce qu'ils n'ont sûrement pas testé sur un écran d'ordinateur. Mais c'est pas grave, par rapport à... ça serait pas un gros développement à faire pour eux, s'ils le faisaient. Et au passage, c'est pas la crèche dans laquelle je suis qui pose problème, c'est un fournisseur de services qui fournit un ensemble de crèches. Hein. Et le pire, c'est que ça se vend. Bref, je suis assez dépité. Je me suis jamais trop penché sur le monde des applications Android, mais si pour un nombre, même si seulement 10% des applications Android faisaient ça, j'ose pas imaginer la perte monumentale que ça représente pour un utilisateur de smartphone. Combien de gens ont dû changer de smartphone parce qu'ils n'avaient plus de place pour les applications dont ils avaient besoin, uniquement parce que en fait les applications ont fait n'importe quoi.
On avait déjà fait des sujets sur le gâchis de puissance et aussi le gâchis d'espace. Des PC avec 100 gigas, pardon, ou 1 Tera. Non, 500 mégas, c'était mon premier. Mais avec des smartphones où l'espace disque, même si on est sur des 64, 128 gigas, hein, peut-être le stockage est quand même très respectable, et difficilement extensible par contre, ça pose beaucoup plus de problèmes. Merci Pierre pour cette dégeekélisation. C'était le 239e numéro de l'Écho des Gnous, le premier de la 13e saison 2022-2023. Cette émission est enregistrée le mardi 6 septembre pour diffusion le dimanche 11 septembre. On se retrouve encore une fois en différé pour les Connectnous 240. Nous serons le dimanche 25, donc enregistré le 23 ou le 24. Je fais une petite pause dans les vacances, il me permet d'enregistrer. Et il ne nous reste plus qu'à vous souhaiter une très bonne soirée et un très bon fin de week-end. Très bonne fin de week-end, pardon. Et vous souhaitez un bon moment avec Chupa Pimento qui suit tout de suite. Si vous
bonne soirée à tous.
Bonne soirée, au revoir à tous.
Bye bye.
L'Écho des Gnous, votre guide dans le monde libre. Sur Radio Campus 106.6, le libre n'est pas une jungle. Le libre n'est pas une jungle contre le logiciel privateur. L'Écho des Gnous.